Le journal, Stéphanie Wenker.
Bonsoir. Un incendie s'est déclaré cet après-midi dans un appartement de la rue du Pont à Fleurier. 13 personnes ont dû être évacuées, personne n'a été blessé. Les moyens déployés sur place sont importants. La Chaux-de-Fonds en chantier, plusieurs gros travaux ont été présentés ce matin par les autorités communales. Une partie des projets seront réalisés en collaboration avec Viteos. Une prestation collective sans faille ce soir au Tessin, c'est la seule clé du succès pour Union Neuchâtel en demi-finale des play-offs de Swiss Basketball League. Les basketteurs neuchâtelois affrontent Massianio pour l'acte 2 de la série. Une météo encore plus belle que celle d'aujourd'hui nous attend demain. Au programme, soleil et température estivale. Incendie important cet après-midi à Fleurier. Le feu s'est déclaré vers 13h dans un appartement du deuxième étage de la rue du Pont 3A, probablement dans la cuisine. Les flammes se sont rapidement propagées au numéro 3 via des combles communicants. Les locataires des bâtiments ont été évacués, tout comme ceux des numéros 1 et 5. Au total, 13 personnes. Personne n'a d'ailleurs été blessé. L'incendie s'est donc rapidement propagé entre les deux bâtiments fleurissants. Les explications de Georges-André Lozouet, porte-parole de la police neuchâteloise.
Les raisons pour lesquelles l'incendie s'est propagé dans le bâtiment, ça fera l'objet d'une enquête, évidemment. Les toitures, hein, lorsqu'elles sont rapendues, évidemment, et ont des charpentes en bois, eh bien, ça favorise largement le fait que l'incendie se répand dans ses combles. C'est un des éléments qui complique, évidemment, le travail des hommes du feu.
En termes d'effectifs, justement, sur place, est-ce qu'on peut dire qu'il a été important?
Oui, il a été important, hein, puisque c'est 15 véhicules de pompiers au total, une trentaine de pompiers, une ambulance qui s'est rendue sur les lieux hein, pour procéder au contrôle de deux personnes qui ont été incommodées par la fumée, donc des habitants des lieux. Et puis enfin, quatre patrouilles de la police neuchâteloise et bien sûr notre service forensique pour les prélèvements d'usage.
Le secteur ainsi que l'avenue de la gare à Fleurier ont été fermés à la circulation pour le temps de l'intervention. La Chaux-de-Fonds se développe à coups de chantier. La ville a présenté ce matin les principaux travaux qui seront réalisés sur le territoire communal en 2022. Ils concernent notamment les rues du Roulage, des musées, du commerce, encore du Coq et du 1er mars. Ce programme prévoit beaucoup d'entretiens, mais aussi d'importants réaménagements de la voie publique. David Sanchez.
Des réaménagements urbains, mais aussi de la végétalisation ou encore de la réfection de chaussées. Les autorités communales cherchent à dynamiser la ville et améliorer la qualité des espaces publics. C'est ce que nous a expliqué ce matin Théo Huguenin-Elly, le conseiller communal en charge de l'urbanisme.
Désormais, et c'est une systématique, chaque fois qu'il s'agit de consentir à une réfection de chaussée, à une intervention sur l'espace public, nous nous posons la question de savoir si nous refaisons l'identique ou si nous améliorons. Et force est de constater que lorsque nous posons cette question, la plupart du temps, nous donnons comme réponse « il faut améliorer ». Il faut améliorer dans la perspective d'espace mieux partagé, de plus de qualité de vie pour les piétons, de plus d'espace pour la mobilité douce, de plus d'espace également pour l'arborisation et la végétalisation. Donc, en d'autres termes, de rendre nos espaces publics plus attractif. Aujourd'hui, la ville de La Chaux-de-Fonds assiste à une véritable mutation urbaine. Il y a quelque chose de fascinant, de déconcertant aussi pour un certain nombre de nos concitoyens, d'où la nécessité d'informer.
Un certain nombre de travaux seront réalisés en collaboration avec Viteos. Il s'agira notamment de travaux d'entretien et d'assainissement des réseaux. Le fournisseur d'énergie neuchâtelois prévoit d'investir plus de 100 millions de francs dans les infrastructures énergétiques du canton ces 5 prochaines années. Le but sera d'augmenter drastiquement la part des énergies renouvelables, comme le confirme Jérôme Le Gouévec, directeur de la gestion du patrimoine et des projets stratégiques chez Viteos.
Alors cette enveloppe de 100 millions peut paraître effectivement assez conséquente, mais quand on parle d'infrastructures énergétiques, ce sont des infrastructures qui sont coûteuses. On parle souvent des réseaux, mais il faut aussi mentionner les centrales de production de cette chaleur. Et puis, je voulais aussi évoquer les réseaux électriques. Aujourd'hui, nous devons et nous pouvons distribuer une chaleur plus verte à une majorité de population, mais il y a aussi certains concitoyens qui ne pourront pas y accéder. Pour cela, ils devront eux être au bénéfice d'une solution énergétique un peu plus individuelle, mais avec un besoin quand même du réseau électrique, par exemple, que nous devons renforcer, que nous devons préparer à l'arrivée de ces nouveaux consommateurs, de ces nouveaux modes de solutions énergétiques plus individuelles.
Les autorités de la ville de La Chaux-de-Fonds ont bien insisté ce matin sur leur envie de communiquer sur la nature des chantiers. Pour cela, un nouvel outil fait son apparition, fruit d'une collaboration avec Viteos et le système d'information du territoire neuchâtelois. Le géoportail, qui est accessible en ligne, permet désormais d'obtenir des informations détaillées sur les travaux planifiés en 2022.
Merci David. Plus de détails et un lien pour accéder à ce géoportail sont à retrouver sur rtn.ch. La Chaux-de-Fonds, la Corse, en une heure de vol, c'est possible depuis plus de 10 ans. La ligne entre l'aéroport des Éplatures et l'île de Beauté avait été inaugurée en 2011. Le voyagiste Croisitour, son partenaire VT Vacances et la compagnie Swiss Flight Service ont décidé de marquer le coup aujourd'hui dans un hôtel de Calvi en Corse. Depuis ses débuts, d'autres destinations ont vu le jour progressivement et au total, ce sont plus de 10 000 personnes qui ont volé avec Croisitour. De quoi donner le sourire à l'un de ses directeurs après la crise, Michel-André Rizer.
Le bilan qu'on en tire, c'est que dès qu'on a ouvert cette ligne, en août 2011, tout de suite on a vu que la mayonnaise prenait, qu'il y avait un énorme succès. On a dû d'ailleurs doubler la ligne en 2011, on l'a triplée en 2012 et la destination Calvi a été toujours un énorme, énorme succès.
On vous avait entendu Croisitour hein, pendant la crise. Vous avez évidemment, comme tous les voyagistes, vécu une mauvaise période. Vous avez fermé des agences hein, à Saint-Imier. Le Loc, le concentré sur La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. Aujourd'hui, comment vous vous en sortez? Est-ce qu'il y a une stratégie de revenir à ce qui était avant crise?
On a dû se séparer de plusieurs personnes. Aujourd'hui, ces personnes sont parties non pas dans le tourisme, mais dans d'autres activités. C'est des gens auxquels on tenait. Aujourd'hui, on n'a pas la stratégie de rouvrir autant au Loc qu'à Saint-Imier. On se concentre sur 2 sites. Finalement, les gens du Loc viennent facilement à La Chaux-de-Fonds, ceux de Saint-Imier aussi. On a gardé des gens du Loc qui sont à La Chaux-de-Fonds, on a gardé des gens de Saint-Imier qui sont à La Chaux-de-Fonds.
Et à noter Colbia en Sardaigne s'ajoute comme nouvelle destination. Les mesures judiciaires pour empêcher la parution d'un article seront facilitées. Ainsi en a décidé la majorité du Conseil national aujourd'hui, dans le sillage du Conseil des États. Cela s'est fait lors des modifications apportées au Code de procédure civile. Son article 266 prévoyait des mesures dites provisionnelles contre un média en cas de risque de préjudice particulièrement grave pour une personne. Le terme de « particulièrement » sera enlevé. Cela reviendra à empêcher la presse d'investigation de travailler, selon le conseiller national socialiste genevois Christian Dandrès.
Cette proposition vise à permettre au juge de faire interdire une publication, alors que d'ordinaire, la solution dans ce type d'affaires, c'est que la personne qui est mise en cause peut exercer un droit de réponse. Puis en fait, il y a une confrontation de points de vue qui permet à la population d'être informée correctement. Là, ce qu'on veut, c'est que les informations ne sortent pas. Et ça, c'est évidemment problématique, sachant que ces mesures sont souvent utilisées dans des affaires qui sont très proches, disons, des dimensions politiques. On l'a vu pendant des campagnes, des articles ont été bloqués, alors que ces articles auraient pu avoir un impact sur la détermination de la population sur un objet. Les médias ont un rôle fondamental à jouer d'un point de vue défense de la démocratie. On doit leur laisser une marge de manœuvre. Ce n'est pas au juge de décider ce qui est autorisable ou ce qui ne l'est pas, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
Et l'accusation de vouloir nuire à la liberté de la presse a le don d'agacer le conseiller national PLR Genevois, Christian Lucher.
C'est une véritable tempête dans un verre d'eau. Il s'agit de faire en sorte que les médias puissent se voir ordonner des mesures provisionnelles lorsqu'ils portent atteinte de manière grave et non pas particulièrement grave à la personnalité d'un citoyen. Ça m'inquiète un peu, ces réactions des médias qui veulent tout faire pour empêcher cette modification de loi. Ça signifie d'une certaine façon qu'ils considèrent que la liberté de la presse est sans limite. Or, elle est limitée. Elle est fondamentale, elle est importante. Je la chéris personnellement.
Mais dans la balance, il y a aussi l'intérêt du public.
Absolument. Et cet intérêt prépondérant n'est absolument pas remis en cause. Il s'agit d'un fait justificatif qui, précisément, permet de porter atteinte à la personnalité de personnes qui sont, par hypothèse, des personnes publiques.
Un sujet réalisé par notre correspondant à Berne, Frédéric Nejat-Toulami. La guerre en Ukraine fait réagir la droite du Parlement. Le Conseil national a soutenu hier une motion qui vise à muscler le budget de l'armée. Il devrait passer de 5 à 7 milliards de francs d'ici 2030. Le Conseil des États doit encore se prononcer. Le groupe Pour une Suisse sans armée regrette cette prise de position de la Chambre du peuple. Une trentaine de personnes se sont réunies spontanément hier à Berne pour protester. La situation en Ukraine ne doit pas servir de prétexte au réarmement, estime la secrétaire politique du GSSA, la neuchâteloise Pauline Schneider.
Je suis assez persuadée que si c'était quelque chose qui devait arriver, des tanks en plus, des milliards en plus dans l'armée, c'est pas ça qui ferait la différence face à des envahisseurs. Et de plus, on a quand même pu voir, si on prend l'exemple de la Russie, que la probabilité d'une attaque militaire russe, enfin la menace militaire russe, elle a jamais été autant faible. On voit le résultat de ces attaques qui sont faites. Je pense que c'est pas quelque chose dont on doit avoir peur, et encore moins en tant que Suisse, qui en plus applique déjà des sanctions un petit peu de manière douce, si je peux me permettre.
C'est pas quand même remettre en question notre neutralité si on compte sur l'OTAN autour de nous pour être protégé?
On compte pas sur eux, on remet pas en question notre neutralité. C'est une simple question géographique, que si ces pays-là sont attaqués, ils le seront forcément avant nous, parce qu'il faut avoir accès à ces pays pour arriver en Suisse. Et le jour où ça arrivera, ça voudra dire que des énormes puissances militaires sont déjà tombées et que la Suisse, avec son armée comme elle est organisée aujourd'hui, n'aura de toute manière aucune chance de pouvoir faire la différence à ce niveau-là.
Des propos recueillis par Aude Raimondi. Plus de 300 exécutions illégales au nord de Kiev ont d'ailleurs été perpétrées par les forces russes en Ukraine depuis fin février. L'ONU a dénoncé aujourd'hui à Genève de nombreux actes équivalents à des crimes de guerre. Plus de 200 cas de disparition forcée ont été observés, la plupart dus aux forces russes. De nombreux lieux de culte ont également été endommagés ou détruits.
RTN, il est 18h11.
Sport.
Nouveau défi de taille pour Union Neuchâtel. Le club de Swiss Basketball League affronte Massagno à 19h30 au Tessin pour l'acte 2 des demi-finales des playoffs. Menés 1-0 dans la série après avoir perdu samedi au Tessin déjà, les protégés de Mitar Trivunovic savent pertinemment qu'ils s'attaquent à du très solide. Les explications de Marcel Neuenschwander.
Union Neuchâtel a perdu une bataille mais pas la guerre. Il faut néanmoins avouer qu'il ne sera pas aisé de surprendre Massagno dans son fief. Le club tessinois reste d'ailleurs invaincu cette saison à domicile et ce n'est pas par hasard. Il dispose d'un effectif vieillissant, certes, mais construit autour de joueurs de qualité. C'est le constat qui s'impose. Union avait perdu le premier match de la série samedi de 11 points. Défaite en conclusion incontestable, même si tout n'est de loin pas acheté. Brian Collomb.
Il faut regarder la vidéo et puis voir cette deuxième mi-temps, mais on ne peut pas se permettre de faire une deuxième mi-temps pareille ici mardi parce que ça va être 20 points. Donc il faut qu'on joue comme on l'a fait en première mi-temps, voir que quand on joue comme ça, on est capable de rivaliser et même faire mieux. Donc voilà, à nous de faire en sorte de tenir sur ce rythme 40 minutes pour gagner un match ici.
Union doit vraiment tenter d'user son adversaire en s'appuyant sur sa force collective et une prestation sans passage à vide. C'est l'avis de Brian Collomb qui pense aussi déjà à l'acte 3 de la série samedi à domicile.
Voilà, eux sont favoris, très clairement. Ils ont une équipe de stars. On va vendre très chèrement notre move. Même si à 2-0 mardi, j'espère pas, ils vont devoir venir chez nous. Et chez nous, il y a 2-1, voire 2 matchs à jouer. Donc on va tout donner. Puis on sait que chez nous, avec notre public, ce n'est pas la même histoire non plus. Donc on va faire en sorte de pousser la série le plus loin possible.
Point positif, le coach Mitar Trivunovic disposera d'un effectif complet pour cette partie, ce qui ne sera pas de trop pour tenter donc de battre les Tessinois.
Massagno, Union Neuchâtel, c'est à suivre en direct sur RTN ce soir dès 19h15. Autre match à suivre sur RTN avec ce derby pour l'honneur en Challenge League de football. Neuchâtel-Xamax reçoit Yverdon à 19h30 à l'occasion de l'antépénultième journée de championnat. Au classement, les Rouges et Noirs sont 6e, les Nord-Vaudois 9e. Les deux formations n'ont plus grand-chose à attendre de leur fin de saison, si ce n'est faire plaisir à leurs supporters. L'attaquant Ayoub Ouafsa a déjà donné et pris du plaisir contre Stade Lozanouchi vendredi en inscrivant son premier but de la saison. Blessé au genou, le franco-marocain de 24 ans voit enfin le bout du tunnel après 6 mois d'absence et une première saison à la maladière plutôt compliquée.
Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu à cause des blessures. Ça, on ne peut pas le contrôler. Mais voilà, je suis venu avec plein d'envie, plein d'idées, plein d'objectifs. Je voulais montrer ce que je savais faire et être une valeur ajoutée à l'équipe. Donc voilà, ça n'a pas pu se faire à cause des blessures. Donc là, aujourd'hui, ça commence un peu. Donc j'espère que ça va continuer.
Voilà, cette envie, elle demeure?
Exactement, oui. Quand tu n'as pas joué depuis un moment, forcément, que tu retrouves les terrains, donc on est un peu revanchard. J'ai envie de rattraper un peu, entre guillemets, le temps perdu, même si avec 3 petits matchs qui restent, ça ne va pas pouvoir se faire. Mais bon, je vais tout donner et prendre du plaisir.
Un sujet de Marcel Neuenschwander, Neuchâtel-Xamax, Yverdon. Un match à suivre en direct sur RTN ce soir. Ce sera également dès 19h15. Belle suite de soirée à toutes et à tous.